c'est ça la France.
RMC, les grandes gueules.
Fred Hermel.
Bonjour la République, bonjour la France. On a failli passer à côté, hein, mais ce samedi, c'est le 220e anniversaire de la naissance de Victor Hugo. En fait, je crois profondément, mais c'est vraiment au plus profond de moi, qu'on devient vraiment français le jour où à l'école on apprend un poème de Victor Hugo. C'est un dénominateur commun de tous les citoyens de notre pays. Alors moi, mon premier poème, je devais avoir 7 ou 8 ans dans l'école communale de mon petit village du Pas-de-Calais. Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour mon petit père ». Franchement, ça c'est venu un jour puis c'est resté là. Tout le monde connaît des vers de Victor Hugo. Victor Hugo, je pense que c'est quelqu'un qui a appris à chaque Français un peu la vie, quoi. Ça permet à tout Français de reconnaître un Thénardier, d'avoir de la compassion pour une Fantine ou et de la tendresse pour Cosette et pour Gavroche. Ça donne d'espoir aussi, Victor Hugo, parce qu'il y a des Jean Valjean qui deviennent des Monsieur Madeleine. Hugo, c'est l'homme qui croit en Dieu et qui en même temps est anticlérical. Si ça, c'est pas français, c'est quand même la laïcité. Hugo, c'est l'écrivain engagé, parlementaire, qui s'est opposé à la peine de mort. C'est pour ça que moi, je trouve un peu dégueulasse et je m'inquiète beaucoup quand je vois qu'aujourd'hui, Victor Hugo est victime de ce mouvement racialiste, ce mouvement revisiteur de l'histoire, qui voudrait le faire passer pour un sale type, parce que comme beaucoup d'hommes, de grands hommes de la Troisième République, eh ben, il croyait en la colonisation, parce qu'il pensait que c'était une œuvre civilisatrice, parce qu'elle était, pour l'abolition de l'esclavage. Alors, pour preuve, on s'en souvient, il y a 2 ans et demi, cette lycéenne, en martiniquaise, qui avait refusé de faire le bac français, parce qu'il y avait un texte de Victor Hugo, et qu'elle disait que c'était un raciste notoire. Ou alors les textes terribles qu'il y a eu dans la revue de la LICRA contre notre poète national. Oui, c'est notre poète national par excellence, celui qui ne se remit jamais de la mort de sa fille Léopoldine, et dire qu'elle est morte, hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gai quand je la sentais triste. J'étais mort au milieu du bal le plus joyeux, si j'avais en partant vu quelque ombre en ses yeux. On ne touche pas à Victor Hugo, parce que Victor Hugo, c'est ça la France.
C'est ça, c'est ça, c'est
bravo.
On peut que s'incliner. Alors, il a raison, pas touche à Victor Hugo. Victor Hugo, on ne regarde pas les à côté de Victor Hugo, on regarde, par exemple, j'ai retrouvé le discours sur l'Afrique de Victor Hugo.
C'est celui-là qui pose problème.
Au 19e siècle, le blanc a fait du noir un homme. Au 20e siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde. Allez, peuple, emparez-vous de cette terre. Prenez-la à qui? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la où les rois apporteraient la guerre. Apportez la concorde. Donc, est-ce que ça résonne différemment aujourd'hui, bien sûr.
19e
siècle. Quand on parle de Victor Hugo, est-ce qu'on doit quand même ouvrir cette page-là et expliquer? Les Misérables et Notre-Dame de Paris écrasent tout, tu vois. Non, c'est bon, on reste aux Misérables à Notre-Dame de Paris. Kevin Bossuet.
Je crois qu'il faut remettre les choses dans son contexte. Le discours de Victor Hugo s'inscrit dans le discours républicain de l'époque et le discours de la gauche de l'époque, en effet, qui disait qu'il y avait une mission civilisatrice et qu'on devait, en effet, apporter la civilisation aux personnes, en effet, qui se trouvaient sur le continent africain. Évidemment que, vu de 2022, c'est un discours qui est évidemment insupportable, mais discréditer quelqu'un parce qu'on ne remet pas les choses dans son contexte, en fait, c'est profondément, je trouve, idiot. Et je suis d'accord avec ça, avec Victor Hugo. En effet, déjà, il y a de très beaux textes. Et moi, ça m'arrive, en effet, d'utiliser Victor Hugo en classe parce qu'on a.
Les élèves aiment Victor Hugo.
Oui, ils adorent Victor Hugo.
Parce que c'est facile à comprendre.
C'est facile à comprendre. Et ça permet véritablement de s'immerger dans cette époque-là. Et c'est vraiment très, très, très facile d'accès. Donc voilà, je pense qu'il faut arrêter, en effet, de vouloir faire la chasse aux personnages historiques. Pour comprendre un personnage historique, il faut le remettre dans son contexte. C'est comme le débat qu'on a eu
tout
à l'heure.
Tu parles de chasse. Tu dis arrêtez de faire la chasse.
Mais parce que ce n'est que ça depuis le début.
Il n'y a pas de chasse ou de traque.
Ah si, quand on vient déboulonner des statues comme celle de Colbert, quand on vient en effet critiquer des gens comme Voltaire en disant que c'était un horrible raciste sans remettre ce qu'il a dit dans son contexte, il y a bien une volonté d'effacer notre histoire. Pas marginal, puisqu'à l'université, maintenant, toute une partie de la recherche tourne autour de ça, dans le fait de vouloir discréditer nos grands héros nationaux et pour tuer en effet notre identité à travers cela.
Marianne Souré.
Oh, bon, moi de toute façon je pense qu'on ne doit pas regarder l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui, c'est une évidence. Donc Victor Hugo, on va le laisser à la place de Victor Hugo. Victor Hugo c'est l'abolitionniste pour moi. Victor Hugo c'est celui qui disait ouvrons des écoles, fermons les prisons. Victor Hugo c'est celui qui a écrit le dernier jour d'un condamné. Je vous invite à lire un livre qui est extraordinaire, un tout petit livre d'une personne qui s'appelle Judith Pérignon et qui s'appelle Victor Hugo vient de mourir. Et en fait, on ne sait pas, parce qu'on a cru en fait que Johnny Hallyday et la mort de Johnny Hallyday, c'était le premier grand événement qu'il y avait eu dans Paris, parce qu'il y avait 1 million de personnes pour Johnny Hallyday. Il y avait 2 millions de personnes pour Victor Hugo. Quand Victor Hugo est mort, alors qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la télévision, quand Victor Hugo est mort, il y avait 2 millions de personnes dans Paris. Et ce livre est extraordinaire parce que c'est vraiment... C'est toutes les funérailles en fait, et c'est un tout petit livre, mais moi j'ai découvert ça parce que j'ignorais complètement en fait que quand Victor Hugo est mort il y a eu cet émoi là. Donc gardons oui bien sûr Victor Hugo, bien sûr que c'est ça la France, hein.
Oh, ça fait plaisir, voilà. J'avais peur que
demain des lobes, alors blanchis la campagne,
je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Oui, mais jusqu'à présent, pour nous tous qui sommes passés à l'école, quand on ouvre Victor Hugo, on reste au poème de Victor Hugo, au récit de Victor Hugo. Est-ce que maintenant, puisque tu dis toi-même, on fait la chasse à ces grands poètes, à ces grands écrivains et à ce qu'ils représentaient à l'époque, on doit, tu sais, comme pour Tintin au Congo juste avant, dire « Alors, nous allons parler de Victor Hugo, mais... » Puisque nous parlons de Victor Hugo,
mais on peut dire.
Oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut se sentir obligé de dire à chaque fois.
Obligé, mais on peut dire oui.
De recadrer le contexte.
On peut dire tout simplement, peut-être que ses idées, enfin, c'est même sûr, son discours, le discours qu'il faisait sur le colonialisme, exactement comme l'a dit Kevin. Oui, aujourd'hui, avec les yeux de 2022, c'est très choquant, mais ça ne l'était pas à l'époque. Et même à l'époque, c'était un grand humaniste quand même.
Exactement,
enfin, je veux dire, attention, c'était quand même, voilà.
Ouais. Parce que il faut replacer la question de la colonisation et de
l'esclavagisme. C'était une bataille farouche.
C'était une bataille farouche. Et elle était vraiment de gauche. C'était des grands républicains de gauche. Parce que il y avait le sentiment, parce qu'à l'époque, fin du 19e siècle, un Africain sur quatre était l'esclave d'un autre Africain. C'était une réalité. Et ces gens-là, comme Victor Hugo, comme Jules Ferry, ont appuyé la colonisation parce qu'elle permettait l'abolition de l'esclavage dans ces pays d'Afrique. Et donc, c'est ça le fondement même. Alors, c'est vrai que vu avec les yeux d'aujourd'hui, ce sont des mots qui pourraient être insupportables. Alors, quand on publie de nouveau Mein Kampf, une longue explication pour replacer dans le contexte et expliquer tout ce qui va pas dans Mein Kampf, c'est normal. Mais si, quand on ouvre les Misérables, il faut qu'il y ait une page pour dire attention parce que Victor Hugo, etc. Là, ça me fait très peur.
Il faudra le faire pour tout bon nombre de personnalités. Tiens, prenons le cas d'une élève en classe qui se met d'un coup à contester Victor Hugo, à dire oui, mais vous ne nous avez pas dit qui était Victor Hugo, vous ne nous avez pas parlé de l'époque de Victor Hugo, qu'est-ce que tu fais? Tu dis écoutez, c'est bon, on reste sur le poème et on se concentre sur l'œuvre et on parlera de l'homme une autre fois.
Je rentre dans l'aspect pédagogique des choses. Déjà, j'écoute ce qu'elle a en effet à dire et puis après, en effet, j'essaye en effet de remettre les choses dans ce contexte, de faire ce travail-là. C'est aussi le rôle de l'enseignant de répondre en effet aux interrogations et aux révoltes des élèves et on se rend compte que quand on fait ça bien, finalement ça se passe très bien à la fin et que les élèves comprennent. Vous savez, les enfants sont parfois plus intelligents que les adultes et qu'ils comprennent beaucoup plus de choses en effet que les adultes. En fait, il n'y a pas trop de problèmes pour enseigner ces grands textes. Et quand je disais qu'il y a une chasse notamment aux grands personnages historiques, ce n'est pas vraiment le cas dans l'école de la République. L'école de la République continue à enseigner les personnages historiques malgré ce que dit certains.
Oui, mais cette chasse, c'est l'université. Elle se passe beaucoup sur les réseaux sociaux notamment. Et du coup, elle touche aussi ceux qui arrivent à l'école de la République. Elle touche, je regarde là aujourd'hui la manière dont Abraham Lincoln est remis en cause aussi aux États-Unis avec un nouveau documentaire qui arrive, je crois que c'est sur Netflix, il me semble, où on replace Abraham Lincoln, on déboulonne un peu la statue du célébrissime Abraham Lincoln.
Et le problème, c'est que cet enseignement-là, il est à la fac. Sauf que la fac est en train de former des professeurs qui vont enseigner à nos enfants. Moi, j'ai une question pour Mehdi, qui est algérien. C'est un monde francophone. Qu'est-ce que ça représente, par exemple, pour un Algérien, Victor Hugo?
Victor Hugo, il est connu par rapport à ses ouvrages, mais c'est un homme qui a, avant toute chose, qui a quand même prêché pour la décolonisation. Ça veut dire qu'il a toujours été, à la fin de sa vie, toujours pour dire chaque peuple mérite son pays et chaque peuple mérite une sorte de démocratie. Donc, au début, comme l'a si bien dit Kevin, au début, c'est vrai qu'il a été, on va dire, un peu dans l'air du temps. C'était l'air du temps, mais ça a été l'un des premiers, justement, à vouloir une sorte d'indépendance et vouloir aider son prochain.
Mais quand tu es francophone, quand tu n'es pas français,
Victor,
francophone,
Victor Hugo, c'est un ambassadeur de la culture française. C'est Victor Hugo, c'est quelqu'un qui est connu mondialement. Ses textes sont connus mondialement. Oui. Ils sont traduits dans je ne sais pas combien de
comédies musicales,
de milliers de langues.
Misérable, qui est américaine,
voilà, exactement.
Qui tourne depuis des dizaines
d'années à Broadway. Ouais. C'est ça. À un moment, il ne faut pas. Moi, je pense que. Et c'est pour ça que je partage l'avis d'un professeur d'histoire géo. Chaque personne, chaque grand personnage de ce monde a un temps où la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc, en fait, il faut relativiser par rapport à la période où cette personne vivait. Et maintenant, en 2022, faire en quelque sorte, le juge de ce qu'a dit Victor Hugo à cette période-là, alors, je pense que c'est pas très correct.
Hélarit, qui est avec nous, bonjour.
Allô ?
Bonjour, Hélarit.
Bonjour à vous.
Bonjour. Pas touche à Victor Hugo ?
Moi, c'est pas touche à Victor Hugo. Moi, c'est juste par rapport à un sujet.
Okay. Prenez bien le téléphone, Hélarit, parce que sinon, on va pas vous entendre. Allez-y.
Vous m'entendez ?
Ouais, on va essayer. Allez-y. Hop.
Allô ?
Ah, c'est mieux. Go.
C'est mieux ? Oui, c'est mieux. Donc, comme je disais, Victor Hugo, ce qu'il a dit, ok, c'est une certaine période, mais il faudrait pas. Il faut essayer de comprendre les personnes, en fait, qui lisent ces textes-là. Il y a un contexte, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il faut pas diminuer le fait par le contexte. Ça reste quand même grave ce qu'il a dit, même à la période à laquelle il était. Tu prenais l'Afrique, j'ai l'impression qu'on oublie qu'on veut dire, ok, il y avait l'histoire de civiliser l'Afrique, mais non, ils vivaient avant, ils avaient une langue, ils avaient quelque chose. Donc on veut le rendre tout beau, la colonisation. Maintenant qu'il y a des personnes qui arrivent à le dire, on dit, voilà, on diminue, parce que oui, c'est un clivage de dire le wokisme. Le wokisme, maintenant, quand on dit qu'on est un peu éveillé, on dit, voilà, c'est woke, donc on met dans une case. Sauf que non, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont capables de parler, qui parlent, qui peuvent dire, oui, moi, ça me blesse de voir ça. Ça me blesse que mes enfants étudient quelqu'un qui a dit de mon pays, de ma patrie, qu'elle doit être colonisée, que c'est des gens qui sont faits pour l'esclavage.
C'est dur ce que vous dites. Vous dites que vous n'avez pas envie que vos enfants lisent et apprennent Victor Hugo parce qu'il a eu ces paroles-là au 19e siècle.
Pas moi du fait que j'ai dit. J'ai dit, je comprends qu'il y ait des personnes. Moi, j'essaie de comprendre les gens, en fait.
Ouais. Qu'on puisse être blessé par un auteur, même tout Victor Hugo soit-il, qui a tenu ses propos, Kevin Bossuet.
Non, mais une chose. Le rôle de l'enseignant, effet, c'est de remettre les choses dans ce contexte et c'est déconstruire notamment les stéréotypes et les préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis d'un auteur ou vis-à-vis d'un texte. Nous sommes des professionnels de l'éducation et évidemment qu'en classe, nous ne faisons pas de la propagande. Nous sommes totalement neutres et quand on fait étudier un texte de Victor Hugo, on met évidemment en avant tout ce que vous venez de dire, en fait. Donc, il n'y a pas de mal à enseigner cela. Il faut faire confiance aux enseignants. Il faut faire confiance à l'école de la République. On sait très bien ce qu'on fait. Quand on enseigne des choses comme la Shoah, quand on enseigne des choses comme la naissance de l'islam, des textes parfois qui sont un petit peu compliqués, on sait très bien ce qu'on fait. Faites-nous confiance. Nous, notre rôle, c'est de faire vivre les valeurs de la République dans nos salles de classe, la liberté, l'égalité, de la fraternité. Et c'est certainement pas faire passer un idéologie détournée en s'emparant des textes pour en effet les décontextualiser, vraiment.
Et moi, merci Hélarit d'avoir été avec nous, c'est vous qui aurez conclu la discussion sur cette mise au point de Kevin Bossuet. Merci jeunes gens d'être passés par les GG aujourd'hui.
Victor Hugo, c'est ça la France.
On se retrouve demain, mon cher Fred, avec Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, Bruno Pomard, l'ancien policier du RAID, aujourd'hui le maire de Belflou dans l'Aude. Nous serons avec Étienne Liebig, l'éducateur, à midi moins 25. Elle est la conseillère politique de Valérie Pécresse. Nadine Morano sera avec nous. Eurodéputée, donc. Le rôle de l'Europe.
Ça va, vous êtes entraînés, les gars ?
Face à Vladimir Poutine. Et puis, là, il va falloir faire des exercices de coaching pour Valérie Pécresse pour relancer la campagne. Ça va pas être simple.
Mais Nadine Morano n'avait pas dit quelque chose, justement, sur Vladimir Poutine il y a quelques mois.
On en parlera demain. Allez, bonne journée.